Merci Maë. Donc du coup, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. En cette 7e journée de la radio sur Transistor, cela ne vous a pas échappé, nous nous intéressons à la fiction à la radio. Mais que se passe-t-il quand la fiction audio s'échappe de votre poste à galène, de votre radio réveil, bref, de votre Transistor? Pour réfléchir à cette question, nous avons l'immense plaisir de pouvoir échanger avec JBX, le créateur d'une des sagas MP3 qui a marqué notre jeunesse, j'ai nommé Reflet d'Acide. Bonjour JBX, est-ce que vous me recevez?
Mais oui, bonjour.
Incroyable.
Comment cela va-t-il?
Ça va bien et vous-même?
Impeccable, impeccable.
Super.
Tranquillement, au soleil. Enfin, on va dire ça vite.
Je disais donc les sagas MP3. Vous souvenez-vous de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Ces petits lecteurs en forme de clé USB aux qualités sonores discutables, ces fichiers zip que l'on s'échangeait sous le manteau, ces uploads massifs sur YouTube, encore naissants, et ces liens échangés sur MSN. C'est une Madeleine de Proust que nous vous proposons de déguster avec nous, pardon, et qui, selon nous, incarne le renouveau de la fiction audio à l'ère du numérique. Alors d'abord, une première question très simple, histoire de situer un peu pour les moins de 20 ans, justement, ou ceux qui ont la mémoire courte. Reflet d'Acide, c'est quoi?
Ah, il faudrait que je prenne une voix comme ça, alors, parce que ça ne nous rajeunit pas du tout, tout ça. Donc, alors, au départ de Reflet d'Acide, c'est donc une fiction sonore, comme on dit aujourd'hui. Avant, on appelait ça une saga MP3, puisque le format MP3 nous permettait de compresser suffisamment les fichiers audio pour pouvoir justement les partager sur le net. Mais nous n'avions, hélas, à l'époque, que des débits très, 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 très limités. Donc au départ, c'est une aventure qui, on va dire, rollistico-médiévalo-fantastique, c'est-à-dire que je m'amusais à faire les voix de mes petits camarades rollistes, de jeux de rôle donc, juste pour m'amuser et pour leur présenter une sorte d'aventure, comme le donjon d'Albuck que j'avais adoré, que j'adore toujours d'ailleurs. Et voilà, donc au départ, ce n'était qu'une petite parodie destinée juste à quelques amis. Et puis à un moment donné, il y a un lien qui a été partagé sur un forum, et puis la honte m'a obligé, disons, à refaire les premiers épisodes, qui étaient absolument lamentables, pour que ce soit audible par des personnes qui ne connaissaient pas notre petit cercle de rôlistes. Et voilà, et donc depuis 2002, j'ai continué, je me suis rajouté des petites contraintes, des contraintes rhétoriques parfois, des allitérations, des vers, des alexandrins, en me disant que ça n'allait pas vraiment intéresser les gens, et finalement si, donc j'ai continué jusqu'en 2016, et je vais encore continuer, voilà.
D'accord. Et du coup, donc, vous vous dites vous-même que vous êtes un vieux de la vieille, mais il y avait aussi...
mais non
Avant vous, il y avait aussi toutes les fictions radiophoniques dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui.
J'imagine, oui.
Quel était votre rapport justement à la fiction purement radiophonique avant de vous lancer dans la fiction MP3? Êtes-vous un fidèle de ce média? Est-ce qu'il vous a inspiré d'une quelconque manière ou...
Alors, honnêtement, il y avait François Pérusse qui a beaucoup fait aussi pour ce format et pour l'utilisation de la voix déformée, plus ou moins d'ailleurs, mais bon, surtout lui, c'est le roi des calembours, hein. On peut pas faire mieux que François Pérusse. Faut dire ce qui est. Mais puis également, effectivement, j'avais quelques souvenirs, mais là non, j'étais quand même pas né. Mais de, par exemple, Cinéfurax, qui est une fiction sonore dont vous avez certainement parlé, des années 60. Donc ça, c'est une longue tradition. Je sais que de l'autre côté de la Manche, il y a également cette tradition. Alors c'est plus théâtral. Mais eux, ils continuent beaucoup à faire ce genre de fiction. Et j'étais surtout inspiré, moi, par les parodies au départ. Hein. Je m'amusais avec mon magnétophone à cassette pour faire des parodies de Derrick, pour faire des parodies des Feux de l'amour, enfin des horreurs, heureusement, qui seront inaudibles, puisque je ne mettrai ces horreurs en ligne. Mais voilà, effectivement, j'avais déjà commis quelques billevesées de cette sorte par le passé, mais évidemment avec l'informatique on pouvait trafiquer davantage les sons et améliorer tout ça. Voilà, donc oui, petite connaissance, on va dire, de loin en tout cas pour ce qui est Cinéfurax, François Pérusse, les 2 minutes du peuple, le donjon d'Albuck, les aventuriers du survivor, enfin les classiques en 2002, on va dire.
D'accord. Et vous parliez donc de technique. Donc concrètement, comment est-ce que vous fabriquez un épisode de Reflet d'Acide? Comment vous y prenez? Le mixage, le jeu, les sons? Vous disiez que vous faisiez toutes les voix vous-même. Enfin, ça doit être un travail sur la voix assez,
alors,
unique.
C'est un long travail. C'est le mot clé, en fait, c'est laborieux. Parce que, bon, la première chose, c'est vrai, je me suis lancé là comme c'était un petit loisir. Et puis, finalement, quand on essaye d'améliorer, que ce soit la qualité des textes, que ce soit la qualité technique du son, de tout, en fait, des bruitages, du choix des musiques, etc., évidemment, on y passe un temps fou. En plus, je me suis rajouté la contrainte d'écrire tout en vers, quelle bonne idée. Donc là, le travail sur le texte, c'est le plus long désormais. Mais c'est vrai que les outils informatiques ont bien évolué. Je me rappelle qu'au début, moi, j'avais un petit micro que je posais sur une boîte de Benco, pardon pour la marque, que je posais avec entouré de coton pour essayer d'étouffer les pop. Voilà, c'était vraiment c'est artisanal. Et je suis resté d'ailleurs avec cette configuration très longtemps parce que je voulais aussi montrer que finalement, avec peu de matériel, on peut très bien en arriver à donner quelque chose de correct à l'audio, et qu'il n'y avait pas besoin de vrais micros de professionnels pour arriver à avoir une qualité suffisante, en tout cas. Donc, très longtemps, je me suis astreint à garder les mêmes logiciels qu'en 2002 pour finir ma première saison de Reflets d'Acide. Donc, en 2016-2017, j'avais encore les 16e épisode et 2017. Voilà, je vais y arriver. J'avais encore des logiciels de 2002-2005, mais pas plus, quoi. Mais ce qui est long, en fait, effectivement, c'est l'écriture. Ensuite, les voix, ça, c'est des accidents, parce qu'on cherche effectivement à imiter des personnes ou alors à trouver de nouvelles voix pour incarner de nouveaux personnages. Et comme je n'avais pas d'amis proches, j'étais un petit peu excentré géographiquement, je ne pouvais pas les faire venir pour les faire jouer. De toute façon, on aurait perdu toute amitié parce que je suis un tout petit peu pénible. Sur ce plan-là, j'aurais été trop précis, trop pointu. Enfin, non, je me connais, je me tape sur les doigts tout seul. Enfin, je suis mon pire juge. Donc, j'ai fait donc effectivement une vingtaine de voix. Je les compte plus d'ailleurs, mais finalement, en cherchant, ce que j'ai retenu, c'est surtout en cherchant, à avoir des voix ou en essayant de faire des blagues, on trouve. C'est très long, mais on trouve. Voilà.
Et plus par curiosité qu'autre chose, avant Reflets d'Acide, quel a été votre parcours ? C'est-à-dire, est-ce que vous venez du monde de la radio ou pas du tout ?
Pas du tout. non, pas du tout. J'étais plutôt. En fait, moi, j'ai fait des études de droit, sans aucune conviction, toujours d'ailleurs, mais aucune, vraiment. Et bon, après, j'avais. Bien sûr, j'avais quelques loisirs liés à l'informatique. J'ai commencé assez tôt l'informatique. J'avais fait très peu de programmation quand j'étais jeune. Après, j'ai suivi un petit peu tout ce qui s'est passé là-dessus. Mais je dis ça parce que j'ai eu à un moment donné un ZX81. Vous pourrez aller chercher pour voir à quoi ça correspondait. C'était un ordinateur avec 1 kilooctet de mémoire. Donc vous tapiez votre programme dans la journée, le soir vous aviez le résultat et après vous pourriez pleurer puisque vous n'y avez aucun moyen de sauvegarder ce que vous aviez tapé pendant la journée. Bref, mais voilà, j'ai suivi effectivement cette évolution et effectivement dès qu'il y avait un petit apport technique, hop, j'essayais de voir qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce qui pourrait être réalisé grâce à ça. Et c'est vrai que la création. Là, en plus, ce qui est intéressant avec la fiction sonore, c'est qu'elle touche à énormément de choses. C'est-à-dire, il y a bien sûr un travail d'écriture, il y a le travail sur l'enregistrement des voix, il y a le travail parfois sur les bruitages, parfois il faut s'amuser à faire rouler une pomme par terre pour faire mine qu'on a coupé la tête de quelqu'un et qu'elle roule. Voilà. Après, effectivement, il y a un travail de mixage, de recherche de musique, d'ambiance. Enfin, c'est très très intéressant, mais très très prenant et ça prend un temps fou, effectivement. Mais je n'avais effectivement aucun lien avec le monde de la radio, et toujours pas d'ailleurs, non. Enfin, sauf aujourd'hui.
Oui, parce que c'est ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire que finalement le destin de Reflets d'Acide s'est accompli plutôt sur Internet que sur les ondes. Enfin, ça a totalement changé un petit peu le paradigme de la fiction radio. Et selon vous, qu'est-ce que ça changerait un peu dans l'histoire de ce genre
que la fiction audio
que la fiction sonore,
de la radio et vienne sur
soit
Internet.
La radio. Disons que là, le grand choc pour moi, en fait, aussi, c'était de proposer les aventures comme ça. Alors évidemment, on est seul devant son ordinateur, on est tranquille et on ne sait pas du tout derrière qui va suivre. Un petit peu comme la radio. Le seul point peut-être de directif que j'ai pu ressentir, c'est que après on a eu, j'ai reçu des messages et il y a eu un échange tout de suite en fait que j'ai pu établir avec des auditeurs et des forums de discussion, etc. Donc en fait c'est le lien internet qui voilà, c'est vraiment le lien internet qui a permis des échanges et puis qui m'a encouragé à continuer. C'est vrai que le faire pour un support, alors il y a une contrainte aussi que je n'avais pas avec la radio, c'est j'imagine qu'il faut par exemple rendre un travail on va dire à telle période, enfin si on commence à faire un feuilleton ou une série, on est obligé d'être encadré par soit un standard de durée, j'imagine peut-être voilà, pas plus de 10 minutes, un quart d'heure, et encore c'est beaucoup je trouve pour la radio, là c'est la liberté totale. Les premiers épisodes faisaient une dizaine de minutes, et puis petit à petit, moi je n'ai pas voulu avoir une contrainte, un standard en tout cas de durée. Je me suis dit, voilà, j'ai un épisode, il y a une chouette chute à la fin, hein, voilà, un petit coup de théâtre, et je vais rajouter des personnages, etc. Je vais tisser ma toile sans savoir vraiment où j'allais. Hein. Je me suis toujours amusé à écrire sans vraiment savoir quelle allait être la prochaine étape. Donc je me mettais à chaque fois dans la panade. Ce qui est intéressant comme façon d'écrire, mais qui n'est pas très confortable, puisqu'après il faut faire en fait comme si on avait tout pensé depuis le début, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mais voilà, il y a une liberté, effectivement, qui est liée à Internet directement. Je n'avais pas de compte à rendre au niveau de la durée, au niveau de, voilà, d'une standardisation, en tout cas, à ce niveau-là. C'est pour ça que le dernier épisode, quand je l'ai sorti, il fait 1h50, ce qui, évidemment, en radio, on peut le découper, mais en fait, c'est un petit peu dommage, puisque la logique de l'épisode, elle est une narration, voilà, pleine et entière.
Et du coup, on vous parle beaucoup de radio, mais en tant qu'un petit peu enfant d'Internet, Reflet d'acide est un peu l'un des premiers phénomènes Internet, en tout cas, qu'on a connu, nous, dans notre prime jeunesse.
Aïe, aïe, aïe.
On a l'impression que Reflet d'acide, c'est empreinte d'une forte transmédialité, notamment empreinte d'une forte influence venue du jeu de rôle. Et est-ce que vous seriez de ceux qui diraient que le jeu de rôle, finalement, le jeu de rôle papier, j'entends, oui, c'est une forme de fiction audio interactive, la première étape dans la fiction audio?
Mais... Alors pour moi le jeu de rôle c'est moi je viens d'une période, enfin je l'ai essayé le jeu de rôle quand j'avais à peine 20 ans, mais j'étais en 94 95 et à l'époque c'était pas très bien vu. Il y avait beaucoup de, alors évidemment les médias sérieux de l'époque on peut en entendre encore aujourd'hui, j'imagine, mais oui. À l'époque c'était très mal vu. Bon, enfin c'était mal vu parce que c'était pas très connu, etc. Le jeu de rôle en fait, pour moi, c'est un jeu de société. Alors, jeu de société, pour moi, c'est le grand mot, c'est-à-dire ça rapproche les gens, c'est convivial, c'est... voilà, c'est... Moi, dans une soirée, si vous m'invitez pour boire des coups, dans une ambiance où il y a de la musique partout, je suis malheureux, parce que je ne vois pas, déjà, je suis comme un elfe, enfin, je suis un elfe, en fait. Ou alors un jus de tomate, éventuellement. Bon, bref. en fait, c'est vrai que je trouvais que le jeu de rôle, voilà, on partage effectivement des aventures plus ou moins burlesques et on se crée tout un monde imaginaire très simplement. L'imagination, une feuille de papier, des dés, un crayon si possible et en avant. Donc il y a cet esprit effectivement de conte finalement. On se raconte une histoire tous ensemble avec quelqu'un qui connaît un scénario et qui essaye de faire en sorte que les joueurs le suivent plus ou moins le scénario. Mais il y a cet esprit effectivement d'échange tous ensemble autour d'une table et très simple. Pour moi effectivement il y a ce côté-là de fiction immédiate où voilà il y a pas besoin de grand chose en fait pour s'amuser. Ça a toujours été très bien. Et puis ce qu'il y a de très fort aussi pour moi en tout cas, le jeu de rôle m'a apporté quelque chose au niveau de la gestion de ma timidité, parce que alors là j'étais un champion du monde de la timidité, j'avais beaucoup de mal là aujourd'hui je vois que j'y arrive à peu près, mais quand même il y a toujours ce fond là de timidité. Le jeu de rôle a été quand même une sorte de mini cours de théâtre entre guillemets, parce qu'il faut à un moment donné se voilà prendre des accents idiots, enfin se sentir un petit peu ridicule, tout ça, ça aide. Ça aide pas mal, je trouve. Donc voilà, finalement, c'est une continuité. Même si moi, j'en ai fait donc une parodie pour mon aventure audio. On n'est absolument pas, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient tester, inutile de connaître le jeu de rôle pour savoir exactement ce qui va se passer dans Reflet d'Acide, puisque moi, il y a un narrateur qui, en fait, représente un maître du jeu. Mais finalement, au fur et à mesure de l'aventure, j'intégrais ce narrateur comme si c'était une sorte d'ange gardien créé par un dieu des aléas et du hasard qui ne s'adresse qu'à certaines personnes. Donc, au final, j'ai essayé d'englober le maître du jeu dans un univers réel. Voilà, en gros. Donc voilà, pour répondre à votre question. Mais je fais beaucoup de digressions, non ? Non, tout va bien ?
Ah
bon,
non,
ça
c'est parfait. Non. Bah, justement, oui, parce qu'on se disait que la voix du maître du jeu dans le jeu de rôle, c'est un petit peu comme une espèce de narrateur de fiction audio et qui doit justement embarquer les joueurs dans une espèce de grande fiction interactive qui serait le degré zéro de la fiction, mais qui ne serait pas retransmise, ou en tout cas dans l'intimité de la pièce, quoi.
C'est ça, en fait, le narrateur est intégré à l'histoire réellement puisqu'il s'adresse directement au personnage. Il y a des interactions entre les personnages, c'est ce que je trouvais amusant moi dès le départ, c'est-à-dire effectivement quand on fait un jeu de rôle, évidemment on essaye parfois de parlementer avec le maître du jeu en disant mais non, mais je pourrais faire plutôt comme ça, enfin, ou alors on décrit toute une situation, on jette les dés, on fait un ratage complet et puis c'est ridicule, mais voilà, c'est ce qui est drôle aussi.
D'accord. Et du coup, en parlant de cette nouvelle place aussi de la voix au niveau du jeu de rôle, dans l'émission suivante, le numéro 8 des Aventures du Pixel Perdu, que nous vous invitons à écouter juste après, va porter sur un jeu qui est sorti il y a 2 ans, A Blind Legend, qui est coproduit par Dowino et France Culture. Et il s'agit d'un jeu mobile sans images, en fait, qui se joue entièrement à l'oreille grâce à un système de son binaural. Et le joueur incarne un chevalier aveugle qui s'oriente grâce à justement ce système de son en binaural. Et qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez de ce type de création qui s'appuie sur des nouvelles technologies pour finalement renouveler la fiction audio, mais du côté de l'interactivité?
C'est une très belle idée, ça. Ouais, c'est une très belle idée. Alors là, avec les échanges que j'ai eus via Reflet d'Acide, j'ai beaucoup de malvoyants qui m'ont écrit et qui m'ont encouragé effectivement à continuer, bien sûr, et qui m'ont sensibilisé évidemment à leurs problèmes. Et là, je me suis dit, voilà, face à l'audio, les malvoyants et moi, nous sommes à égalité impeccable. Je peux leur conter cette aventure, ils peuvent l'entendre exactement comme n'importe qui. Et oui, c'est une très belle idée, ce jeu, parce qu'effectivement, on peut se mettre à la place d'un malvoyant. Et c'est très, très bien. Moi, j'ai également fait en sorte, j'en avais discuté avec ceux qui m'ont aidé à faire le site internet de Reflet d'Acide, de faire en sorte que le site soit justement adapté, qu'il puisse être facile de naviguer quand on est malvoyant. Donc, effectivement, je trouve que c'est une chouette idée. J'essaierai d'aller voir ça.
Et du coup, en parlant de projets de renouvellement de la fiction audio, quels sont vos futurs projets, audiophoniques ou non d'ailleurs, pour la suite, et que va devenir Reflet d'Acide en 2018 ?
Alors, eh bien, cette année normalement, enfin depuis quelques années d'ailleurs, en 2012, je me suis dit, tiens, j'ai eu une idée. Ça commence mal en général quand je dis ça. J'ai eu une idée, tiens, si je faisais un petit jeu de plateau que j'allais mettre à disposition comme ça sur le net. En fait, dans l'idée, au départ, c'était de mettre à disposition un jeu de plateau sur le net, c'est-à-dire à découper, hein, voilà. Et depuis 2012, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a un éditeur qui s'est intéressé au jeu de plateau, qui m'a dit « mais non, mais ça peut intéresser d'autres personnes, etc. » Donc, en fait, j'ai fait un jeu de plateau qui se base sur une idée toute simple. Si les joueurs n'incarnaient pas des héros, mais avaient plutôt le point de vue de narrateur. Donc, essayer d'influencer, de guider des héros pour réussir une belle quête épique avec du sang, des larmes, des trahisons, enfin... Et donc, à partir de cette idée, ben voilà, depuis 5-6 ans, avec Pétulia, donc mon épouse, Pétulia, c'est son pseudo, je tiens à le dire, ses parents l'aiment beaucoup, mais ils ne lui ont pas donné quand même ce prénom qui est bizarre, qui est en fait un petit clin d'œil à Pratchett, mais je m'égare. Donc, en fait, avec Pétulia, donc, on a créé un jeu, et qui a effectivement, qui a pu mûrir, on va dire, avec tous les playtests que j'ai pu réaliser au fur et à mesure que nous allions dans les festivals. Donc là, il y avait un éditeur, il ne peut plus le faire puisque la ligne éditoriale a changé à cause de la maison mère qui les a rachetés. Bref, c'est pas grave, on va sans doute envisager peut-être un crowdfunding à la fin de l'année pour le sortir pour les personnes qui seraient intéressées par ce jeu. Et voilà, et c'est un jeu que j'ai pu le faire tester d'ailleurs le week-end dernier à un malvoyant, mais c'est vrai que là, de le mettre en braille, ça va être compliqué. Enfin, on regardait toutes les difficultés techniques et c'est vrai que ça va être très très difficile, hélas. Mais bon, voilà, ça m'a passionné et puis le jeu a influencé directement la fin de mon aventure parce qu'à un moment donné, je me suis posé d'autres questions, j'avais intégré d'autres choses dans le jeu que j'ai dû intégrer après dans le dernier épisode. Enfin, c'est tout est lié, mais tout était écrit depuis le début, bien sûr.
Eh bien, merci infiniment, JBX, pour votre temps. Merci de nous avoir rejoints pour cette 7e journée de la radio sur Transistor.
C'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Un plaisir partagé. Bonne continuation à vous et longue vie à la fiction à la radio.
Et merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup, JBX, au revoir. Et quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, ne partez pas. Occitane et moi, alias les aventuriers du Pixel Perdu, vous nous aurez peut-être reconnus, vous emmenons dans notre 8e voyage au pays du bruit et de la fureur.